Eh bien, salut à tous, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien, et on se donne rendez-vous aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Carnet de guerre. Ça me fait très plaisir de vous parler aujourd'hui, les barons, parce que ça faisait un petit moment que j'avais pas réalisé d'épisode original pour, en gros, le format podcast, parce que, si vous l'avez remarqué, désormais, je publie systématiquement toutes les vidéos sur YouTube, et en plus de la vidéo sur YouTube, il y a à chaque fois une rediffusion en format podcast. Alors ça, c'est voulu pour une raison assez simple, c'est qu'il y a pas mal de barons de la communauté qui n'ont pas YouTube Pro, donc c'est-à-dire que, par exemple, ils ont envie d'écouter une vidéo, mais ils ne peuvent pas, en gros, mettre leur téléphone en veille, parce que sinon, ça arrête tout simplement la diffusion de cette dernière. Donc le format podcast permet à ceux qui ne peuvent pas toujours regarder les vidéos en temps et en heure, de pouvoir au moins les écouter dans leur voiture, en allant au travail ou à la salle de sport. Donc au moins tout le monde est content. Donc systématiquement maintenant, il y aura les rediffusions des vidéos YouTube en format podcast. Et désormais, je souhaite également qu'il y ait une sorte de nouveau contrat entre nous les barons, c'est-à-dire que j'ai très envie de vous faire participer au format carnet de guerre, donc au format podcast. J'ai très envie de discuter avec vous dans des épisodes de podcast, afin notamment de régler vos problèmes. Je pense que certains barons de la communauté se souviennent du format SOS Doc que j'ai particulièrement apprécié, c'est-à-dire que vous avez un problème par rapport à une situation bien précise. Et moi, j'essaye de vous donner des conseils, des pistes de réflexion, on discute ensemble, on passe un bon moment. Bref, j'ai très envie de réaliser de nouveau ce format en format podcast, mais j'ai besoin de vous, les gars. C'est-à-dire que s'il n'y a pas des barons de la communauté qui souhaitent passer dans ce format-là, ben, il ne peut pas voir le jour. Donc vraiment, si vous avez envie de passer dans un épisode de Carnet de guerre, vous m'envoyez un message sur Instagram. Vous savez que je lis tous les messages sur Instagram et on voit ce qu'on peut faire. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va pas parler de dev perso, etc., mais un petit peu de cinéma. Je sais qu'il y a beaucoup de barons de la communauté qui aiment les analyses de films, et je vais vous parler d'un film qui a fait couler beaucoup d'encre ces dernières semaines. Il s'agit de Civil Wars. Alors, au moment où j'enregistre ce podcast, il est numéro 1 au box-office américain. Je crois qu'en France, il était à peu près deuxième ou troisième, et c'est un film qui a été produit par la société de production A24. Alors A24, c'est une société de production qui existe maintenant depuis plusieurs années et qui s'est fait connaître pour un certain nombre de succès parce qu'en fait, les studios de production A24, enfin la société de production A24, pardon, elle a une sorte d'identité visuelle bien spécifique, c'est-à-dire qu'on reconnaît une sorte de patte artistique des films estampillés A24, et en plus de ça, c'est une société de production qui laisse une grande marge de manœuvre, une grande liberté aux réalisateurs qui décident de travailler pour A24. Et donc, Civil Wars est sorti, et c'est un film qui a été réalisé par Alex Garland. Et alors, qu'est-ce que c'est que l'histoire du film? Enfin, sur quoi ça repose? Eh bien, il s'agit d'un groupe de quatre journalistes qui doivent se rendre à Washington, D.C. pour interviewer le président américain. Jusque-là, on peut se dire, bon, ben, c'est un énième road trip, enfin, un film de ce type où on a des personnages qui doivent se rendre d'un point A à un point B, il y a tout un tas de péripéties. Sauf que la trame de fond, la toile de fond de cette affaire, c'est le fait que, eh bien, les États-Unis traversent une guerre civile avec donc des divisions très profondes, plusieurs factions, mais je vais revenir un petit peu plus loin sur cette idée. Donc en gros, on a quatre journalistes qui doivent rejoindre Washington, D.C. afin d'interviewer le président dans un contexte de guerre civile. Alors je vais pas vous mentir, de prime abord, avant d'aller voir Civil Wars, j'étais pas vraiment emballé parce que je me suis dit, putain, ça va être un énième film de propagande avec un biais idéologique majeur parce que on est dans le contexte des élections présidentielles américaines et je me suis dit que ça allait être un bourbier sans nom et que j'allais manger la propagande habituelle digne d'un film Netflix. Et en réalité, c'était pas vraiment le cas. C'est-à-dire que moi, de mon point de vue, j'ai pas perçu véritablement une dimension hautement politique dans le film. C'est-à-dire que j'ai pas eu l'impression que le réalisateur, Alex Garland, essayer de me faire avaler un discours politique qui soit de droite comme de gauche. Au contraire, je trouve qu'il essaye un petit peu de brouiller les pistes. Alors j'ai eu cette discussion avec Baptiste Marché, que vous connaissez bien et qui vit maintenant désormais au Texas. Et lui, il m'a donné son avis parce que j'ai fait une story sur Instagram par rapport à ce film. Et pour Baptiste, en fait, ça serait plutôt un film de commande. C'est-à-dire qu'il pense que le gouvernement américain est un petit peu à l'origine de la planification de ce film, enfin de la sortie de ce film. Et donc Baptiste, de son point de vue, pense que c'est un film qui essaye de jouer sur la peur des Américains par rapport à l'élection présidentielle qui arrive dans quelques mois, et que en fait l'Américain moyen, l'Américain de base, fasse une sorte de juxtaposition dans son esprit entre le film et ce qui se passe dans le film et la candidature de Donald Trump. Donc ça c'est son avis, je le respecte, moi c'est pas le mien et je pense que chacun doit faire son propre avis par rapport au film. Donc si vous voulez faire le vôtre, ben, allez le voir et à partir de là vous allez pouvoir déterminer si oui ou non le film a pour vous une dimension politique. Et moi j'ai pas trouvé de mon point de vue et c'est ce qui fait à la fois la force mais aussi la faiblesse du film dans le sens où en fait le réalisateur n'explique pas les tenants et les aboutissants de cette guerre civile. C'est-à-dire qu'on n'a absolument aucune putain d'information par rapport au déroulé de cette guerre civile et qu'est-ce qui a fait que les États-Unis ont décidé de sombrer dans cette dernière. Alors on a quelques petits indices, on comprend que le président dans le film a décidé de faire un troisième mandat, ce qui est théoriquement impossible puisqu'il y a le 22e amendement de la Constitution américaine qui empêche les présidents de faire plus de deux mandats. Ça, c'était une volonté de la part des pères fondateurs américains pour éviter justement une logique de despotisme. Et le président, donc, dans Civil Wars, a également bombardé sa population civile et dissous le FBI. Donc, on comprend quand même que c'est un président qui incarne un exécutif fort, ce qui semble être extrêmement difficile aux États-Unis, puisque justement la Constitution américaine, comme je vous l'ai rappelé dans plein de vidéos et plein de podcasts, a été façonnée, a été rédigée pour justement éviter un exécutif fort, avec un système de contre-pouvoir, de balance des pouvoirs, etc., etc. Et alors, en fait, Alex Garland a décidé, eh bien, de créer tout un tas de factions aux États-Unis pendant cette guerre civile, et je trouve que ces factions, elles sont totalement hors sol. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on est dans une œuvre de fiction, puisqu'en gros, on a les loyalistes, donc les États qui sont loyaux au président américain. Donc là, jusque-là, c'est logique, il y a un président américain qui veut rester au pouvoir, donc il y a des États qui lui sont encore loyaux, ce sont les loyalistes. Il y a la Floride qui a gagné son indépendance, on ne sait pas trop comment là encore. Ensuite, on a l'armée de l'Ouest qui est incarnée à la fois par le Texas et la Californie, qui sont deux États qui ont fait également sécession. Et là déjà, il y a un premier truc qui coince, parce qu'on sait très bien que le Texas est conservateur et que la Californie est extrêmement progressiste. Et alors j'ai vu des interviews du réalisateur qui expliquaient que en fait, c'était une volonté pour lui d'exprimer le fait que, malgré leurs divergences politiques, les deux États étaient capables de se mettre d'accord pour lutter contre un président despotique. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux parce que forcément, le président a une couleur politique, qu'il soit républicain ou démocrate. Et d'ailleurs, dans le film, à aucun moment, on ne connaît la couleur politique du président. Donc, ça voudrait dire que, les deux États appartiendraient à la même couleur politique que le président de base, donc ça paraît très très étonnant que ces deux États puissent s'allier, s'accorder ensemble, d'autant plus qu'ils ne partagent pas de frontières communes. Donc en fait, c'est vraiment très mal géré le découpage de la carte dans Civil Wars parce que vous avez la Californie et le Texas qui travaillent en collaboration, qui forment une seule et même entité, sauf qu'en réalité, pas besoin d'être un expert en géographie des États-Unis pour comprendre que la Californie et le Texas ne se touchent absolument pas. Donc, il y a une sorte vraiment on voit que le réalisateur a pas voulu trop se casser la tête, hein, en fait. Hein, il a voulu créer quelque chose un peu à la fois éloigné de la réalité, mais qui était quand même assez plausible de son point de vue, et on voit que il a pas été très bon sur ce coup-là, et je pense que les scénaristes qui ont bossé avec lui ont pas beaucoup aussi bossé le sujet. De toute façon, on voit que cette guerre civile, cette pseudo-guerre civile, ça sert de prétexte dans le film parce que en réalité, le long métrage porte très mal son nom, et j'aurai l'occasion d'y revenir un petit peu plus loin. Donc, on a les forces de l'Ouest qui sont, on va dire, les protagonistes presque les plus importants du film en termes de factions, parce qu'en fait, les deux factions qui sont clairement mises en avant dans le film, c'est les loyalistes, donc les États qui sont loyaux envers le président, et les forces de l'Ouest. Et on se fout totalement de la Floride et de l'armée populaire. L'armée populaire, c'est une autre faction avec les États du Nord, je crois le Colorado, etc. Et eux, ben, ils font quasiment pas d'apparition dans le film, même si il n'y a pas vraiment de preuves en ce sens, parce que vous allez voir un petit peu plus loin que il y a eu une volonté du réalisateur de brouiller les pistes, c'est-à-dire que parfois dans le film on tombe sur un certain nombre de protagonistes et on ne sait pas à quel camp ils peuvent appartenir parce qu'ils n'ont pas d'uniforme, etc. Il y a une sorte de zone grise. Donc voilà, en gros, pour faire très simple, le caractère fictionnel de l'œuvre rend le scénario totalement improbable, et c'est là qu'on comprend que, à mon sens, le réalisateur a voulu plutôt utiliser. En fait, j'ai l'impression que Alex Garland a voulu faire un film sur le travail des journalistes et des reporters de guerre, parce que c'est vraiment le cœur du sujet, c'est-à-dire notre perception de l'information, le pouvoir de l'image. Et qu'il a utilisé en arrière-plan une guerre civile, une potentielle guerre civile américaine, juste parce qu'il savait que ça allait vendre dans le contexte justement des élections présidentielles américaines. Mais clairement, c'est pas ce qui est au cœur du film. Et d'ailleurs, on voit que la promotion de ce dernier, notamment par la société de production A24, a été assez mensongère. Beaucoup de gens ont reproché ça au film parce que on s'attend justement à ce que le long métrage se focalise presque exclusivement sur la guerre civile, et non, c'est une toile de fond. D'ailleurs, il y a eu une énorme polémique par rapport à la sortie du film, parce que la société de production A24 a décidé de réaliser un certain nombre de posters promotionnels avec une intelligence artificielle qui se base sur des scènes que l'on ne voit absolument pas dans le film. Et ben, les gens ont reproché ça, enfin les spectateurs ont reproché le fait qu'il y avait une publicité mensongère, et le fait également que la société de production A24 ait pu utiliser des intelligences artificielles pour réaliser un certain nombre d'affiches promotionnelles, ce qui est assez ironique puisque Alex Garland avait fait un film sur justement les dérives de l'intelligence artificielle. Je crois que c'est Ex Machina. Enfin, je l'ai jamais vu, mais je savais à peu près de quoi le film parlait. Donc, j'ai trouvé ça assez drôle et extrêmement ironique. Donc, dans ce podcast, j'ai décidé de vous parler du film en analysant cinq scènes qui sont pour moi importantes parce qu'en fait, il y a tout un tas de références. Donc, ce podcast, il est plutôt réalisé pour les gens qui ont vu le film et qui souhaitent avoir certaines, peut-être, clés de compréhension, grilles d'analyse, etc. Si vous l'avez pas vu et que vous en avez rien à foutre d'être divulgaché, c'est pas un problème non plus, hein. C'est-à-dire que ça vous sera quand même utile parce que si vous avez envie de voir le film par la suite, ça peut être intéressant. Par contre, je vous le dis de suite, je vais divulgâcher à balle. C'est-à-dire que je vais raconter absolument toute l'intrigue parce que j'ai choisi cinq scènes. Bon, j'en ai mis certaines de côté parce que je pense qu'elles n'étaient pas très intéressantes, mais il y a notamment la scène finale du long métrage. Donc voilà, si vous avez envie de voir le film sans être divulgaché, arrêtez le podcast de suite et revenez un petit peu plus tard. Donc, je vais commencer par la première scène qui est celle du départ de New York. Donc, le film commence avec la découverte des quatre protagonistes qui sont quatre journalistes et chacun de ces journalistes représente en quelque sorte une génération du métier de journaliste, mais aussi une approche différente de ce métier. Alors, on a par exemple Lee Smith, qui est une reporter de guerre, une photojournaliste. Elle a connu tout un tas de conflits tout autour de la planète. Elle a vu un certain nombre de saloperies qu'elle a pris en photo. Donc, elle est vraiment obsédée par le fait de prendre des photos qui sont à la fois choquantes, mais qui ont aussi un caractère esthétique. Et on va voir que c'est une dichotomie qui est présente tout au long du film, c'est-à-dire le fait que à la fois il y a une volonté de rechercher des images choc et en parallèle des images qui puissent avoir une certaine dimension artistique. Donc Lee Smith, c'est la dure à cuire du groupe. Il y a Joe qui est à peu près du même âge que Lee Smith, qui est aussi habitué donc des théâtres d'opération un peu dangereux. Lui, il est grisé par la violence des conflits. Il adore ça. Il adore se retrouver dans la mêlée. Il y a Jessie qui est en quelque sorte la bleue de la bande, c'est-à-dire que c'est la jeune photojournaliste qui idolâtre Lee Smith parce que c'était un petit peu sa mentor. Enfin, c'est celle qui l'a incité à faire ce métier. Elle est d'ailleurs sauvée par cette dernière un petit peu plus tôt dans le film à la suite d'un attentat. Et enfin, on a Sammy qui représente lui la presse. Écrite, je crois qu'il travaille pour le New York Times, si je dis pas de conneries, et c'est un gars en surpoids et d'un certain âge. Donc on a tous ces journalistes-là, et quand on les découvre, ils se trouvent dans un hôtel de New York. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant et assez réaliste, parce que généralement, quand on a des journalistes qui sont envoyés sur des théâtres d'opération à l'étranger dans le cadre de conflits, ils dorment tous dans le même hôtel. Par exemple, Ernest Hemingway, quand il s'est rendu en Espagne pour couvrir la guerre civile espagnole, il dormait à l'hôtel Florida, qui est un hôtel qui se trouve à Madrid, et c'était là où il y avait tous les correspondants de tous les pays, tous les journalistes se retrouvaient à l'hôtel Florida, et c'est assez paradoxal ce type de situation. C'est assez intéressant parce qu'on a d'un côté donc tous les journalistes qui se trouvent dans une sorte de bulle, de parenthèse, c'est-à-dire qu'ils sont à l'hôtel, ils sont dans un semblant de société qui fonctionne parce que l'hôtel continue de fonctionner normalement, et en parallèle, ils se trouvent dans un pays qui connaît soit une guerre civile, soit un conflit majeur. Donc il y a une dichotomie assez intéressante entre le fait qu'ils sont à l'hôtel, que l'hôtel continue de fonctionner parfaitement, comme du papier à musique, et de l'autre côté, en toile de fond, c'est la guerre. Et d'ailleurs, dans le film, il y a cette idée qui est un moment développée, puisque Lee Smith va pour prendre l'ascenseur, le réceptionniste lui dit « Madame, vous devriez prendre les escaliers, parce qu'on a parfois des coupures de courant », et il le dit avec un ton assez léger, comme si c'était pas quelque chose de grave, alors que en réalité, s'il y a des coupures de courant, c'est juste parce que il y a une putain de guerre civile en arrière-plan. Donc ça, faut le savoir. Les journalistes, généralement, quand ils sont envoyés à l'étranger, ils dorment dans les mêmes hôtels et ils se fréquentent, ils discutent entre eux. Et là, dans la première scène du film, donc on a les journalistes qui discutent ensemble et on voit qu'ils sont pas vraiment intéressés par, on pourrait dire, le caractère politique de cette guerre civile, c'est-à-dire qu'ils discutent absolument pas des tenants et des aboutissants de ce conflit. On dirait que ça ne les intéresse absolument pas. Et là, il y a quelque chose qui, moi, m'a frappé, c'est le fait que, à mon sens, aujourd'hui, il y a très peu de journalistes qui sont dans cette logique de juste la recherche de l'information, du buzz, du clic, de l'image choc. Je pense qu'au contraire, aujourd'hui, on a une très grande majorité de journalistes qui sont animés par l'idéologie et qui ne sont pas animés par le buzz, l'image choc, etc. Donc ça m'a un petit peu sorti du film parce que je refuse de croire dans la réalité que des journalistes qui en plus sont extrêmement impactés par un conflit de ce type, puisqu'en fait, ce sont des journalistes américains. Et ils sont en train de vivre une guerre civile américaine. Donc on va pas me faire croire que des journalistes américains qui vivent leur propre guerre civile ne seraient pas touchés d'un point de vue idéologique ou politique par cette dernière. Si c'était des journalistes éventuellement qui étaient envoyés sur un théâtre d'opération à l'étranger et qu'ils aient pas d'avis sur la question et qu'ils soient juste dans une recherche d'image choc, je dirais bon oui, ça appartient à une certaine forme de logique parce que ils sont pas liés à ce pays, ils sont pas liés à la culture du pays, à la politique du pays, à des considérations idéologiques, donc ils pourraient plus facilement s'en foutre. Mais là, c'est vraiment un manque de réalisme certain, et d'ailleurs c'est ce qui est ressorti beaucoup dans les commentaires du film. Y a un gars sur YouTube qui a fait un commentaire que j'ai trouvé assez drôle. Il a dit le caractère le plus fictionnel de Civil Wars, c'est le fait que les journalistes ne soient pas intéressés d'un point de vue idéologique par la guerre civile. Et il a raison. Donc voilà, ça c'est la scène d'introduction. Il y a également une petite référence au fait que Lee Smith a le même nom que Lee Miller. Lee Miller, c'était une journaliste, une photojournaliste qui avait été envoyée par Vogue comme envoyée spéciale. C'est notamment elle qui est très connue pour avoir pris une photo d'elle-même. Alors, je crois que c'était un mec qui l'avait pris en photo, mais c'est elle qu'on voit sur cette dernière, où elle se met en scène dans la baignoire d'Hitler, dans son appartement privé de Munich. Et il s'avère que cette photo a été prise le jour du suicide d'Hitler. Et dans le film, dans Civil Wars, on voit notamment Lee Smith prendre un bain. Donc, je pense qu'il y a une volonté de Alex Garland de faire une sorte de référence à Lee Miller, qui était une journaliste, une photojournaliste extrêmement célèbre. Donc cette scène nous permet de voir les quatre protagonistes majeurs qui représentent chacun une génération de journalistes et un aspect différent du métier. Alors par contre, on retrouve, parce que ça reste quand même un film propre à Hollywood, enfin un film américain, cette logique constante, vous savez, des personnages extrêmement clichés, Lee Smith, la femme avec un gros caractère qui a vu plein de trucs abjects et qui a une carapace, Jessie, la jeune bleue qui veut prouver qu'elle est à la hauteur, bon bref, c'est vu, vu, vu et revu. Donc en fait, les personnages sont pas attachants, on n'arrive pas à s'intéresser à eux, ils sont assez plats, ils sont assez vides, on se sent pas investi en fait dans leur cause. Donc, les personnages décident de quitter New York pour se rendre à Washington DC afin d'interviewer le président. Donc, ils prennent une voiture et ils décident de faire le trajet entre Washington et New York. Je crois que c'est à peu près, enfin, New York et Washington, pardon, c'est plutôt dans ce sens-là. Je crois que c'est à peu près 1 200 km et c'est là que démarre le road trip. Donc, la deuxième scène que je voulais analyser, c'est celle de la station-service. Donc, les journalistes sont dans leur voiture et ils décident de s'arrêter, faire le plein, parce qu'ils savent pas quel va être l'état de la route par la suite. Et donc, ils doivent faire le plein de leur véhicule et ils s'arrêtent donc à une station-service où il y a des miliciens. Et là, il y a une première idée qui est assez intéressante, c'est que tout au long du film, on va avoir des protagonistes, enfin les personnes armées, ne vont pas être clairement identifiables. Par exemple, un petit peu plus loin dans le film, on a des miliciens qui portent. Alors je vais utiliser le terme milicien pour dire tout individu armé, mais qui n'est pas clairement identifiable. Donc on a des miliciens qui portent des chemises hawaïennes. Ça peut être une référence aux Boogaloo Boys. C'est un groupe nationaliste américain qui sont très attachés au Second Amendement, qui se préparent à l'éventualité d'une guerre civile et qui portent des chemises hawaïennes. Donc je pense que là, c'est une référence claire à une situation américaine bien connue dans la réalité. Mais là, on a des miliciens et on n'arrive pas à savoir à quel camp ils peuvent appartenir. Et ça, je pense que c'est une volonté du réalisateur parce que dans le cadre d'une guerre civile, les zones, elles sont. Il est très difficile en fait de remarquer qui est l'ami et l'ennemi. Je crois que c'était Ernest Hemingway qui disait que ce qu'il y avait de terrible dans la guerre civile, c'est le fait qu'un oncle pouvait tuer son neveu, un père pouvait tuer son fils et inversement. Et donc, à l'intérieur d'une seule et même famille, on pouvait avoir des individus qui n'avaient absolument pas les mêmes idées et qui n'appartenaient pas du tout au même camp. Donc ça, j'ai trouvé l'idée intéressante. D'ailleurs, elle est développée par des théoriciens militaires comme David Galula, qui avait écrit un superbe ouvrage qui s'appelait, il me semble, le traité de la contre-insurrection, où il expliquait en gros comment on pouvait faire pour lutter contre une guérilla. Par exemple, vous avez un pays qui connaît une guérilla en son sein, comment faire pour mettre en place des stratégies militaires afin de les niquer, quoi. Et l'idée de Galula, c'était que en tant que force étrangère, puisque vous êtes une force étrangère au pays, vous devez à tout prix vous rapprocher de la population. Et justement, les mecs qui pratiquent la guérilla, les guerrieros notamment, ben eux, ils font l'inverse, c'est-à-dire qu'ils doivent être comme un poisson dans l'eau, comme disait Mao, c'est-à-dire que ça soit difficile de savoir qui est qui, est-ce que ce sont des civils, est-ce que ce sont des militaires, et il faut qu'il y ait vraiment une connexion extrêmement étroite entre celui qui pratique la guérilla et la population civile. Donc j'ai trouvé l'idée assez intéressante et assez réaliste, et il y a une autre idée que j'ai trouvée assez... assez bien pensé, c'est le fait que les miliciens demandent $300 aux journalistes pour faire le plein, et ou une somme astronomique, je crois qu'ils parlent de $1000 ou un truc comme ça. Et en fait, la journaliste Lee Smith lui répond qu'elle veut bien lui donner $300 canadiens. Et là, le mec accepte et on comprend en fait que ben, tout simplement le dollar s'est cassé la gueule, le pays traverse une guerre civile, donc l'économie peut pas être florissante. Et par conséquent, ben, j'ai trouvé l'idée assez intéressante parce qu'au final, ce sont des considérations auxquelles on pense pas vraiment quand on imagine de prime abord un scénario de guerre civile. On pense avant tout à la violence, à la destruction, aux armes, mais on pense pas à des considérations plus pragmatiques, notamment lié à l'économie. Et ensuite, on a donc dans cette scène le personnage de Jesse, pardon, qui découvre que les miliciens sont en train de torturer deux hommes qui, là encore, ne sont pas clairement identifiables. On ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas à quel camp ils appartiennent. En fait, ils sont à moitié pendus au niveau de là où on lave les voitures dans les stations de service. J'ai pas le nom de ça. Et un des miliciens lui montre donc son chef-d'œuvre en quelque sorte, les deux hommes torturés, et elle n'ose pas les prendre en photo. C'est-à-dire qu'elle est pétrifiée par la peur, elle trouve ça absolument abject. Et Lee Smith débarque, et Lee Smith prend des photos sans problème, et elle invite même le milicien à se mettre en scène, c'est-à-dire à prendre la pose au milieu donc des deux hommes torturés. Et là, c'est quelque chose de très intéressant qui est développé, parce que déjà, on se rend compte que Jessie, donc la jeune journaliste, elle prend des photos en noir et blanc. C'est peut-être une volonté de sa part de vouloir créer une distance avec la réalité. Pourquoi? Parce qu'avec le noir et blanc, on distingue difficilement notamment la couleur du sang, tandis que Lee Smith, elle prend des photos en couleur, parce que c'est la réalité. La réalité, elle est brute, elle est choquante, donc ces photos sont à l'image de la réalité. Y a très peu de distance entre les photos de Lee Smith et la réalité elle-même, parce qu'elles sont prises en couleur, etc. Donc c'est un petit détail qui appuie sur ça. Et faut savoir que c'est extrêmement difficile pour les photojournalistes ou les reporters de guerre de créer une distance entre l'image, entre la photo qui va être prise, le sujet et eux-mêmes. Il y avait notamment Kevin Carter qui était un photojournaliste assez célèbre sud-africain qui avait pris une photo extrêmement célèbre qui s'intitule L'enfant et le vautour, où en fait c'était une petite fille soudanaise qui était en état de dénutrition avancée, où c'était un petit garçon, je sais plus, il y avait une sorte de... Je crois que la photo s'appelle La petite fille et le vautour, mais qu'en réalité c'était un garçon qui était décédé des années après du paludisme ou d'une autre maladie. Et donc on voit sur le premier plan de la photo cet enfant qui est décharné, qui crève la dalle, hein, il faut dire les termes, et derrière un vautour qui attend presque que l'enfant meure pour pouvoir le manger. Donc la photo est bien sûr extrêmement choquante, elle est extrêmement forte, et il avait remporté le prix Pulitzer en 1994. Et à l'époque, quand il avait sorti cette photo, il s'en était pris plein la gueule, Kevin Carter, parce que les gens l'avaient accusé d'avoir été sans cœur, d'avoir pris cette photo et de s'être barré. Il avait dû lui-même expliquer qu'en réalité, il se trouvait dans un camp de réfugiés et que les parents de la petite étaient à côté et qu'il ne pouvait pas faire grand-chose de plus. D'ailleurs, c'est vrai parce que la petite en question, ou le garçon, je sais plus, a une sorte de bracelet que l'on attribue aux enfants que l'on va soigner dans des camps de réfugiés. Et Kevin Carter, donc, il a tellement vu d'horreur tout au long de sa carrière en qualité de photojournaliste qu'il s'est suicidé. Au final, alors il avait aussi des problèmes d'argent parce qu'il n'arrivait pas à vivre de son métier, etc. Et il explique ça notamment dans sa lettre de suicide. Mais il souligne aussi le fait qu'il a tellement vu d'horreur que il préfère partir et ça l'a hanté toute sa vie. Donc ça montre que le métier de photojournaliste ou de reporter de guerre, il n'est pas fait pour tout le monde parce que déjà il y a une dimension artistique. Lee Smith, elle explique plus loin loin dans le film que sur 30 photos qui vont être prises, il y en a une qui potentiellement peut être publiée. Et en plus de cette dimension artistique, il y a tout l'aspect moral. Est-ce qu'on est capable de prendre en photo des horreurs absolues? Est-ce qu'on est capable, en tant qu'humain, d'encaisser tout ça d'un point de vue de la violence des images, de ce qu'on va voir, etc., etc. Et aussi, c'est un métier qui peut représenter un risque majeur parce qu'il y a des reporters de guerre qui ont été tués dans tout un tas de conflits, notamment en Syrie récemment, ou encore en Ukraine ou ailleurs. Bref, chaque guerre a son lot de journalistes qui sont tués dans l'exercice de leur fonction, donc ça fait un petit peu partie du métier, donc c'est pas accessible pour tout le monde. Et justement, la discussion entre le personnage de Lee Smith et la jeune Jessie, ça soulève le fait que c'est un métier extrêmement difficile et qui vous malmène. Donc, après cette scène de la station-service, j'ai décidé de vous parler de la scène de la boutique. Alors, qu'est-ce qui se passe durant cette scène? On a les journalistes qui arrivent dans une petite ville américaine tranquille, comme si tout était normal, c'est-à-dire les maisons sont bien entretenues, le gazon est impeccable. Bref, c'est comme s'il n'y avait absolument pas de guerre civile dans le pays. D'ailleurs, les journalistes font une réflexion du style « on a dû remonter le temps, c'est pas possible ». Et ils s'arrêtent dans une boutique de vêtements et le personnage de Joe demande à la vendeuse qui gère la boutique si cette dernière est au courant que y a une guerre civile qui est en train de déchirer le pays. Et cette dernière répond quelque chose d'intéressant. Elle lui dit que oui, en effet, elle est au courant, notamment par le biais du journal télévisé, enfin par le biais des informations, mais qu'elle préfère se tenir éloignée de tout ça. Et à la fin de la scène, le personnage de Sammy montre à Lee Smith qu'en réalité, il y a des individus armés sur le toit qui sont en train de protéger la ville, ou du moins de veiller. Donc on se rend compte que même si la guerre n'est pas matériellement présente dans cette petite ville, elle n'est pas vraiment très loin. C'est-à-dire que le réel n'est pas loin du tout, et que même si la vendeuse veut essayer de vivre dans une sorte de réalité alternative où la guerre n'existe pas, eh bien en réalité, si la guerre existe, elle est là et elle est aux portes de la ville. Donc cette scène, elle signifie plusieurs choses à mes yeux. Déjà, dans la plupart des films de guerre, il y a toujours cette scène qui se déroule dans un cadre que l'on pourrait présenté comme étant normal. Et moi, quand j'ai vu Civil Wars, j'ai de suite pensé à une scène dans Apocalypse Now où le personnage qui est interprété par Martin Sheen, donc j'ai oublié le nom du personnage, enfin son escouade, arrive dans la plantation française, dans la colonie française. C'est une scène qui est malheureusement pas présente dans la version courte du film. Elle est présente dans le format Redux, enfin dans la version Redux. Vous savez qu'Apocalypse Now a eu tout un tas de versions différentes qui ont été réalisées par Coppola, et donc cette scène, elle est très intéressante, et c'est dommage qu'elle soit pas dans la version courte, parce que c'est une sorte de parenthèse en fait dans le récit, parce que nos personnages en ont pris plein la gueule pendant des minutes et des minutes entières du film, et c'est un petit peu le moment où ils soufflent un peu, parce que les Français qui habitent dans cette plantation, dans cette colonie, font comme si il se passait rien, quoi. Pour eux, il y a pas de guerre du Vietnam, tout se passe bien, ils vivent encore dans le rêve de l'Indochine française, et ils vivent dans le déni. En réalité, ils savent pertinemment que la guerre est à leur porte, parce qu'ils sont pas fous, ils voient des soldats, ils comprennent bien ce qui est en train de se passer, mais ils vivent dans le déni parce que pour eux, c'est la fin du rêve. C'est la fin du rêve colonial, en plus dans ce cas précis, et c'est une information qui est beaucoup trop insupportable à encaisser pour qu'ils puissent l'embrasser. Et ça, c'est une conception que j'ai trouvée très intéressante, parce que quand j'ai regardé le film, quand j'ai regardé Civil Wars, je me suis posé la question suivante, qui était de savoir si aujourd'hui, dans des pays développés comme par exemple la France, l'Angleterre ou les États-Unis, s'il y avait une guerre civile qui demain éclatait dans ces pays-là, ou alors une guerre de grande envergure avec une nation étrangère, par exemple si demain la France rentrait en guerre contre la Russie, est-ce qu'il n'y aurait pas une partie de la population qui serait totalement dans le déni? C'est-à-dire qu'on vit tellement dans une époque où règne le confort, une époque de paix malgré tout, parce qu'on n'a pas connu de conflit majeur sur notre sol depuis des décennies entières. Donc la question que je me posais, c'était de savoir si la génération TikTok, la génération de Zoomers, serait vraiment consciente de la guerre. Est-ce qu'elle ne serait pas dans une sorte de réalité alternative, de déni par rapport à cette guerre? Et moi, je suis convaincu, et peut-être que c'est trivial ce que je vais dire, mais que si demain il y avait une guerre qui éclatait en France, une guerre vraiment contre une nation étrangère d'envergure, il y aurait des individus qui seraient totalement dans le déni et qui feraient des mèmes dans leur coin justement pour rigoler de ce conflit-là, mais qui ne seraient pas du tout conscients du fait que c'est la guerre dans le pays. Et ils auraient conscience de cette information seulement si la guerre frappait à leur porte directement. Parce que c'est le pays, c'est le problème justement quand on vit dans des pays développés où il règne la paix depuis des décennies, etc. C'est que la guerre a tellement un caractère qui est de l'ordre de l'extraordinaire et d'une violence inouïe que ça peut être. Le réveil peut être difficile. Vous savez, je me souviens que j'ai pas mal voyagé dans ma vie et les premiers cadavres que j'ai vus de ma vie entière, c'était à l'étranger, notamment en Chine. J'ai vu un type se faire percuter par une moto, il est mort sur le coup. Enfin, il y avait sa tête qui avait explosé sur le bitume. C'était la première fois que je voyais un cadavre de ma vie. Et ce qui m'a fait bizarre, c'est que j'en avais jamais vu un auparavant. Et il y avait une dichotomie entre le fait que ben, j'étais dans le cadre d'un voyage, tout se passait bien, on était en sécurité, etc. Et là, d'un coup, on voyait un homme, enfin, on a vu l'homme mourir de toute façon, et on l'a vu étalé sur le sol avec la tête complètement explosée. Et il y avait une sorte de paradoxe. Et d'ailleurs, le film Civil Wars est truffé de ce paradoxe entre le fait d'être dans un cadre qui soit, on va dire, idyllique, bucolique, enfin on peut appeler ça comme on veut, et voir dans l'entrée de ce cadre la violence. Il y a de cela quelques jours, j'ai lu le dernier livre de Salman Rushdie, celui qui a écrit les versets sataniques, qui s'intitule Le Couteau, où Salman Rushdie revient sur sa tentative d'assassinat qui s'est déroulée dans le cadre d'une conférence. Donc vous le savez, Salman Rushdie, c'est un écrivain qui a rédigé les versets sataniques. Il s'est mangé une fatwa de la part du gouvernement iranien. Et donc, il a toujours vécu avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, avec la possibilité de se faire tuer. Et donc, au final, ça a failli se produire, puisque un jeune homme a essayé d'attenter à sa vie dans le cadre de cette conférence, organisée non loin de New York. Et ce qui est très intéressant, c'est que Salman Rushdie explique que ce qui l'a marqué, c'est justement la dichotomie entre le fait que la veille, il était dans un cadre bucolique, au bord d'un lac, tranquillement, et que le lendemain, il était en train de perdre son sang sur une scène parce qu'un homme avait essayé de le tuer. C'est-à-dire, ce qui l'a marqué, c'est l'irruption de la violence dans un amphithéâtre d'une faculté, alors que initialement, ce n'est pas là qu'on voit l'irruption de la violence. En fait, ce qui choque avec le caractère de la violence, c'est que ben, la violence frappe là où on ne l'attend pas, dans une salle de classe, dans un amphithéâtre, au cinéma, peu importe. La violence, elle arrive d'un coup, elle s'impose. Elle s'impose dans un cadre qui appartient à la normalité. Et j'ai trouvé l'idée assez intéressante et j'ai trouvé que Civil Wars le soulignait parfaitement. Et vous allez voir que c'est encore plus le cas avec la scène que je vais décrire juste après. Mais tout ça pour vous dire que je suis convaincu que si demain il y avait une guerre civile ou un conflit généralisé, il y a une grande partie de la population qui serait dans une situation de déni total par rapport à cette situation de violence, parce que pour eux, ça fait tellement pas partie du quotidien, ça fait tellement pas partie de la normalité que le choc serait beaucoup trop dur à encaisser. Donc j'ai trouvé cette scène assez intéressante. D'ailleurs, il y a souvent des. Le réalisateur joue souvent avec ce mélange des genres, puisqu'il y a une autre scène où les journalistes se font prendre à partie par un sniper et ils se trouvent dans un décor de Noël avec une petite musique derrière. Donc il y a la juxtaposition d'un cadre familier, généralement lié à une notion de bonheur que représente Noël, et un mec qui vous canarde avec un fusil de précision. Et d'ailleurs, il tombe sur des soldats qui essaient justement de tuer le sniper et ils savent même pas à quel camp appartient ce sniper, ce qui revient à cette idée initiale que je vous avais mentionné un petit peu précédemment sur le fait que dans les guerres civiles, il y a une sorte de zone de flou, on ne sait pas qui est qui. C'est le problème de ce type de conflit. Donc voilà, la scène est assez intéressante parce que c'est le caractère extraordinaire du conflit qui s'impose au cadre de la réalité.
On passe à la quatrième scène, qui est peut-être celle qui a fait le plus parler, c'est la scène du charnier. Alors en fait, deux des personnages sont pris à partie par un groupe de militaires. Là encore, c'est des miliciens, on ne sait pas à quel camp ils appartiennent. Enfin, ils se présentent pas sous n'importe quel, enfin, ils se présentent pas comme étant des soldats de l'armée de l'Ouest, etc. Ils sont en train de réaliser un charnier. Donc, ils balancent des corps dans une fosse commune en balançant sur les corps de la chaux. Et donc, on a un personnage qui est interprété par cet acteur qui joue dans Breaking Bad. Alors, j'ai oublié son nom, c'est l'acteur qui fait le rouquin, quoi, qui d'ailleurs incarne parfaitement cette banalité du mal que je vais mentionner un petit peu plus loin. Mais bref, c'est un acteur, vous allez le voir parce que je vais le mettre en illustration de cet épisode de ce podcast. Donc, comme ça, vous allez pouvoir voir de qui je veux parler. Mais je pense que vous avez vu cette image traîner un petit peu partout sur Internet. Je crois que malheureusement, ceux qui écoutent sur Apple Podcast ne verront pas l'image, mais bon, on s'en fout, c'est pas bien grave. Et donc, on a ce personnage qui porte des lunettes rouges, qui donc voit le monde extérieur, voit le reste du monde au travers de cette couleur-là, et qui va poser des questions aux journalistes en leur demandant si ce sont des véritables Américains. C'est peut-être là où il y a une dimension la plus politique dans le film, puisqu'on comprend que c'est des ultranationalistes qui ont sûrement une dimension aussi raciste, parce que dans le charnier, il y a pas mal d'Afro-Américains ou d'Asiatiques, même s'il y a également des Blancs, donc c'est difficile de savoir les réelles motivations de ces personnages-là, parce que comme je vous l'ai dit, en fait, tout au long du film, le réalisateur Alex Garland ne donne pas vraiment les objectifs de la plupart des miliciens. On en sait que très peu, et c'est justement voulu. Et là encore, dans cette scène, on ne le sait pas. Et donc, qu'est-ce qu'elle représente, cette scène? Eh bien, la banalité du mal, qui a été notamment théorisée par Hannah Arendt lorsqu'elle avait participé au procès de Eichmann. Eichmann était un haut dignitaire nazi. On imaginait de lui que c'était quelqu'un d'impressionnant, qui incarnait vraiment le mal absolu. Et en réalité, c'était une espèce de fonctionnaire avec une gueule de chiffon. Donc, c'est cette idée que le mal peut être incarné par des individus qui, de prime abord, ne pourraient pas l'incarner, parce qu'on a ce personnage avec les lunettes rouges qui déjà porte des lunettes rouges, ce qui a un caractère un petit peu ridicule, ou du moins qui c'est pas quelque chose que l'on retrouverait dans le monde militaire conventionnel. Et ça, d'ailleurs, je suis sûr que ça serait une réalité si demain il y avait une guerre civile aux États-Unis. On aurait la surenchère de symboles à la con, c'est-à-dire qu'il y aurait tout un tas de milices qui seraient constituées, et chaque milice aurait un petit peu ses symboles. Je vous parlais tout à l'heure des Boogaloo Boys qui portent des chemises hawaïennes. Là, bon, il y a ce type qui porte des lunettes rouges. Donc, c'est le caractère un petit peu individualiste propre à la culture américaine, c'est-à-dire cette volonté de se différencier à tout prix, de créer des codes, de créer des symboles communs, ce qu'on retrouve également dans des gangs, que ce soit des gangs de motards ou des gangs afro-américains, notamment les Bloods et les Crips. Donc voilà, il y a vraiment cette banalité du mal qui est incarnée en ce personnage. Et surtout, il y a une dichotomie entre l'horreur de la scène et le cadre, puisqu'en fait, le cadre est bucolique, on entend les oiseaux chanter en arrière-plan, il fait beau. Je sais que d'ailleurs, la promo du film A24 a beaucoup insisté sur la couleur verte pour faire la promo du film, mais c'est la couleur en somme du gazon. C'est-à-dire qu'ils ont fait beaucoup de promos par rapport à la couleur verte, au gazon, etc. Et j'ai mis du temps avant de comprendre pourquoi, et je pense que la volonté du réalisateur ou de la société de production, c'était de montrer que la guerre, habituellement, vous savez, dans cette idée de guerre, il y a l'idée de destruction, et donc du fait que là où la guerre arrive, eh bien, l'herbe ne repousse pas après. Et je pense que ce qu'ils ont voulu montrer par le biais de cette couleur et par cette omniprésence du gazon, c'est le fait que même dans des cadres bucoliques, même dans des cadres familiers, et qui représentent en quelque sorte l'ordre, parce que le gazon, c'est le jardin qui est ordonné, eh bien, il peut y avoir l'irruption de la guerre. Et donc, cette scène, elle m'a fait penser à Midsommar, un film de Ari Aster. Donc, qui se passe dans un cadre pareil, très bucolique, Je crois que ça se passe en Suède, il me semble, en plein été, etc. Les oiseaux chantent, il fait beau, les arbres sont verdoyants. Donc voilà, il y a cette dichotomie qui, de toute façon, est présente tout au long du film. Et surtout, à la fin de la scène, on a Sami, donc celui qui représente la presse écrite, qui est tué. En fait, il se prend une balle perdue. Et symboliquement, j'ai vu le fait que. Eh bien, c'était la mort de la presse écrite, on pourrait dire en quelque sorte, parce que bon, la presse écrite aujourd'hui, c'est plus que ce que c'était. Il y a quelques plateformes de presse écrite qui valent encore le coup. Je pense par exemple à Une Herde, enfin, je sais jamais comment on dit, avec des très bons articles d'opinion. Mais en règle générale, bon, la presse écrite a tendance à vouer à disparaître parce qu'elle a été remplacée par d'autres approches journalistiques, comme maintenant la petite vidéo, le petit format short. À la con, qu'on voit fleurir partout. Et puis on peut penser aussi à la mort de la presse écrite, notamment avec l'arrivée de Chat GPT. J'ai d'ailleurs appris par un collègue à moi que l'école de journalisme que je fréquentais auparavant, l'un des professeurs a dit désormais aux étudiants qu'il fallait utiliser exclusivement Chat GPT pour rédiger les articles. Ça vous laisse une idée du niveau du bonhomme. Voilà, donc c'est, j'ai vu ça comme la symbolique de la mort de la presse écrite. Et d'ailleurs, Lee Smith prend une photo du cadavre qu'elle décide de supprimer par la suite parce que ça reste vraiment son ami. Et là, c'est à partir de ce moment qu'on comprend que les personnages basculent psychologiquement. Ça forge Jesse, qui a vu un petit peu plus d'horreur et qui maintenant est un peu plus habitué, voire même grisé par tout ça. Mais par contre, ça brise mentalement Lee Smith, qui succombe à une forme de stress post-traumatique parce qu'elle en a trop vu, en fait. Elle en a trop vu, au bout d'un moment, ça finit par exploser. Et pour finir sur cette scène, je dirais également que, en fait, le problème de Civil War, c'est que c'est un film qui aurait pu être un chef-d'œuvre, c'est un film qui était parti d'un postulat très intéressant et qui aurait pu être très marquant, mais en fait, le coche a été raté pour tout un tas de raisons, par rapport au rythme, par rapport à la banalité des personnages, par rapport au fait que le climax du film et la fin donc du film est extrêmement expédié, par le biais du fait qu'on devine aisément le déroulé des événements. C'est un film aussi qui est beaucoup trop court par rapport au sujet qu'il aborde. Il aurait mérité 30 minutes de plus parce qu'il y a tout un tas de sujets liés à la guerre et liés à la guerre civile qui n'ont pas été abordés, notamment par exemple la question du viol qui aurait pu être certes très difficile à mettre à l'écran, mais qui aurait pu être aussi lucides et qui ont déjà été abordés dans d'autres films de guerre, comme par exemple Requiem pour un massacre. Donc voilà, il y a une forme de en fait, il a été feignant, quoi. Le réalisateur a été feignant, il aurait pu aller beaucoup plus loin dans son propos. Il l'a pas fait, peut-être que c'est un manque de budget, manque de temps. Je sais pas, mais voilà, de toute façon, le film n'est pas un chef-d'œuvre. Moi, j'ai trouvé intéressant sur bien des aspects, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui en podcast, sinon ça serait complètement con de faire un podcast de presque 1 heure sur Civil Wars si j'avais pas trouvé le film un minimum intéressant. Mais bon, ça reste pas un chef-d'œuvre et c'est un film qui finira par tomber dans l'oubli, ou du moins qui peut-être trouvera une certaine forme de résonance dans les années à venir s'il y a vraiment une guerre civile qui éclate aux États-Unis, ce en quoi j'imagine que c'est un scénario plausible. Mais bon, peut-être que c'est un film qui gagnera dans la postérité, je ne sais pas, mais j'ai trouvé feignant. Voilà, j'ai trouvé que c'est un film feignant qui aurait pu aller beaucoup plus loin dans le propos. Bref, la scène finale, c'est quoi? C'est l'assaut final des forces de l'Ouest à Washington, donc avec ce qui reste de notre équipe de journalistes qui est là pour couvrir donc l'événement forcément historique, puisque c'est la prise de Washington. Donc forcément, on peut faire des parallèles avec la prise de Berlin ou d'autres événements historiques majeurs comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que donc on voit les soldats détruire des lieux qui sont très symboliques d'un point de vue de l'histoire américaine, puisqu'ils détruisent des édifices qui ont été érigés après justement la guerre civile américaine. Donc symboliquement, ils détruisent des ouvrages qui représentaient en quelque sorte la réunification du pays après la guerre de sécession. Et là, on voit que le personnage de Lee Miller bascule dans son, de Lee Smith, pardon, bascule dans le stress post-traumatique. Elle n'arrive pas à prendre les photos, tandis que Jessie, elle, est totalement grisée. ils finissent par pénétrer dans la Maison Blanche. Ça rappelle forcément des scènes de films comme par exemple la chute sur les derniers jours de la vie d'Hitler. Et en gros, pour la faire très rapidement, parce que c'est pas la scène la plus intéressante malgré tout, Lee Smith se sacrifie pour sauver Jesse, et Jesse s'envergogne et décide de prendre en photo la mort de Lee Smith. Donc là, ça m'a fait penser au film Nightcrawler dont j'ai déjà parlé sur la chaîne YouTube. Vous savez, ce film avec Jack Gyllenhaal, je crois que ça se prononce comme ça, qui joue le rôle d'un journaliste pigiste qui prend des photos d'accidents dans Los Angeles de nuit, et qui est obsédé par le fait d'avoir le scoop qui lui rapportera de l'argent. Donc on voit qu'en fait, elle a une abolition totale de sa moralité, elle est allée beaucoup trop loin dans le processus. Ce qui est un petit peu d'ailleurs irréaliste, hein, dans la mesure où ça se joue en quelques scènes, hein, c'est-à-dire qu'elle passe de la petite fille naïve à limite la fille qui se lance au cœur des fusillades. En réalité, le processus serait beaucoup plus long, mais bon, il y a une volonté de simplification parce qu'on a affaire à un film. Donc symboliquement, Jesse tue le mentor pour s'affranchir, pour devenir la nouvelle Lee Smith. Elle doit la tuer symboliquement, et elle la tue symboliquement par le biais de son appareil photo, parce que en réalité, même si Lee Smith est tué par les hommes du président, c'est à cause, malgré tout, d'une erreur de Jesse qui fait que, eh bien, elle se jette pour se sacrifier, pour la sauver. Et donc, par conséquent, ça a été presque voulu inconsciemment, implicitement. Donc, le film finit avec la dernière scène où Joe et Jesse rentrent dans le bureau ovale. Les forces de l'Ouest pénètrent aussi dans le bureau et décide de tuer le président. Joe lui demande juste avant une dernière citation. La citation est décevante parce qu'il répond un truc du genre « Dites-leur de pas me tuer ». Et donc, les forces de l'Ouest abattent le président. Et dans le générique de fin, on voit une photo qui petit à petit se développe, enfin est visible à nos yeux. Et il s'agit d'une photo de l'escouade qui a pénétré dans la Maison Blanche pour tuer le président et qui pose sur le corps donc du président mort. Alors c'est une référence à d'autres photos célèbres, des photos historiques, notamment la capture de Saddam Hussein ou bien même la mort de Pablo Escobar. Voilà, c'est des photos trophées en quelque sorte. Et là encore, on retrouve une dichotomie entre le fait qu'il y a un homme mort qui est allongé sur le sol et des soldats qui sont tout sourire parce qu'ils ont accompli leur mission. Donc le film conclut sur ça, sur une énième dichotomie. Donc c'est un film, voilà, qui ne cesse de jouer sur ce paradoxe, cette dichotomie entre des situations de la vie quotidienne qui paraissent banales et le spectaculaire, l'entrée du spectaculaire dans la vie ordinaire. Voilà. Donc, les barons, je pense que j'ai fait le tour du film Civil Wars. J'espère que ce petit podcast vous aura plu. De base, c'était prévu que je fasse une vidéo sur le sujet, mais je m'étais dit que le format podcast était peut-être plus intéressant pour un sujet de ce type. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles comme d'habitude, ça aide énormément pour référencer l'épisode et bien entendu l'émission. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode de Carnet de Guerre. C'était le Doc. Ciao les barons.